France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Si je vous dis quel est le plus grand être vivant sur Terre, vous ne pensez peut-être pas aux champignons. Et pourtant, quelle est l'importance du règne fongique ? Ils sont partout, de votre camembert à votre lave-linge, jusqu'au réacteur de Tchernobyl, ils peuvent s'adapter à des environnements extrêmes. Omniprésents dans les sols, ils le sont tout autant dans l'air. Chaque jour, nous respirons en moyenne 200 millions de spores. À l'échelle mondiale, on estime la biomasse fongique terrestre à environ 12 gigatonnes. Ils font partie des organismes les plus importants de la planète et sont essentiels à l'équilibre des écosystèmes. Mais ces alliés peuvent aussi être de redoutables parasites. Comment influencent-ils la vie sur Terre ? Champignons, cèpes à la maison. Audrey Dussoutour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, directrice de recherche au CNRS et vous venez tout juste de publier l'ouvrage « Les champignons de l'apocalypse » aux éditions Grasset. Et nous sommes en ligne avec Marc-André Sellos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'Institut Universitaire de France. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation, ici en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre feed podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous de nombreuses ressources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelles sont leurs remarquables capacités de digestion? Comment cohabitons-nous avec eux et comment cohabiterons-nous à l'avenir avec le réchauffement climatique? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. Ce que l'on voit des champignons, comme ceux qu'on ramasse en forêt, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous sommes en 1973.
Comment naissent les champignons? Alors, les champignons, si vous voulez, ce qu'on ramasse du champignon, ça n'est pas un être vivant comme une plante ou un animal. C'est une fructification. Alors, si vous voulez, à l'origine, le champignon que l'on ramasse, qui est la fructification, contient des semences que l'on appelle des spores. Ces spores peuvent germer et donnent de minces filaments. C'est ce que les cultivateurs de champignons de couche appellent le blanc, et qu'on appelle couramment le mycélium. Mmh. Ce blanc est la partie végétative du champignon. C'est l'être champignon, si vous voulez. Une fois qu'il s'est assez développé, en simplifiant à l'extrême,
oui, bien sûr.
Une fois qu'il s'est assez développé, et qu'il a accumulé un certain nombre de réserves, qu'il a atteint un certain état de maturité, et lorsque les conditions s'y prêtent, les conditions climatiques et les conditions du milieu, ce champignon va former ce qu'on appelle les primordiums, c'est-à-dire les petits embryons de fructification. Et c'est à partir de ces embryons de fructification, lorsqu'il y a, si vous voulez, un événement qui déclenche la poussée du champignon, comme par exemple en été, quand il fait chaud, un gros orage, à partir de ce primordium, le champignon va se développer.
Voilà un extrait de l'émission Interscience diffusée sur France Inter en 1973 et la voix du mycologue Patrick Joly. Audrey Dussoutour, la partie visible, donc, c'est l'organe reproducteur ou fructification qui produit les spores, mais il y a aussi tout ce qui est caché dans le sol.
Ah oui, parce qu'il y a une biomasse énorme dans le sol. On estime, par exemple, dans un gramme, dans une cuillère à café de sol de forêt, qu'on va avoir plus de 600 km d'ifs, donc les filaments du champignon, si on les met bout à bout, ça va faire la distance Paris-Toulouse, par exemple. Et donc, on a vraiment une biomasse qui est cachée. On a aussi, comme vous avez dit, des spores dans l'air. Donc, il y a aussi une biomasse qui est... Et on a aussi une biomasse à l'intérieur des êtres vivants, que l'on ne voit pas. Et ceux-là, ils ne font pas des fructifications très colorées, comme on voit dans les sous-bois. Ils font des toutes petites fructifications.
Marc-André Sellos, une réaction à l'écoute de cette archive, pour la compléter, vous aussi?
Ben, alors, effectivement, c'est vrai que la partie qu'on voit, le milieu, cette fructification qui produit des spores et qui assure la reproduction, c'est que la partie émergée d'un iceberg qu'on ne voit pas. Et on peut dire que les champignons sont des microbes, parce qu'au jour le jour, on ne les voit pas, ils sont microscopiques, qui nous font des clins d'œil au moment de leur reproduction dans le visible. Alors, après, il y a aussi un certain nombre de champignons, et alors ça, nous, on en est plein pour le coup de ceux-là, qui, eux, ne forment pas des filaments, leur mycélium, donc cette partie invisible n'est pas forcément filamenteuse. C'est toutes les espèces qui sont soumises à de l'abrasion, qui vivent dans des milieux liquides, qui sont secondairement unicellulaires. secondairement dans l'évolution. Ça, c'est les levures. Et ça aussi, il y en a pas mal autour de nous. Et c'est une biodiversité encore très, très mal estimée que celle des levures.
Ça, par rapport justement à la biodiversité, vous disiez, Audrey Dussoutour, qu'on a une cuillère à café de terre qui peut contenir jusqu'à 600 kilomètres de petits filaments fongiques. En termes d'espèces, on sait, quelles sont les évaluations justement en termes de nombre d'espèces de champignons?
Alors, à l'heure actuelle, il y a 150 000 espèces qui sont identifiées, mais les spécialistes estiment ce nombre à 5 millions en réalité, donc on en connaît vraiment un tout petit peu. Et par exemple, juste pour vous donner des exemples de biodiversité, dans un sac d'aspirateur, on estime qu'on a à peu près en moyenne 1400 espèces de champignons. Donc c'est énorme. On est aussi peuplé de champignons, notre corps, notre tube digestif. Et donc il y a une énorme biodiversité dont on n'a pas du tout idée la plupart du temps.
Alors, on ne connaît que 6% des espèces de champignons. En comparaison, on estime connaître 98% des vertébrés, 85% des plantes, 20% des invertébrés sur la planète. Marc-André Cello, ça autant dire qu'on n'a encore qu'une toute petite idée de leur diversité.
Oui, alors on sait l'estimer, hein, on va y revenir, mais effectivement, on sait encore rien. Je voyais toujours que la liste de l'IUCN qui vient d'être produite et qui se glorifie de parler enfin de champignons, il y a 1300 espèces de champignons qui sont recensées, donc on a le statut donc de protection, hein, dont on connaît la rareté. Il y a que 1300 espèces sur la liste de l'IUCN, alors que il y a des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers d'animaux. Alors c'est vraiment important, et aujourd'hui on sait l'estimer parce que on sait repérer les espèces par leur ADN. C'est ce qu'on fait dans mon laboratoire. D'un petit bout de sol, d'un sac d'aspirateur, comme disait Audrey, ou de n'importe quoi, on peut extraire l'ADN et typer les espèces qui sont présentes. Et on voit très bien que à chaque fois, le pourcentage d'espèces qui correspondent à des choses connues est très ténu. On voit très bien cet océan de choses non nommées. On compte qu'il faudrait 5000 ans au mycologue, à la vitesse où il travaille, pour nommer tous les champignons qui restent à nommer, si l'estimation que donnait Audrey, et à laquelle moi j'adhère aussi, hein, si l'estimation est exacte. Parce que ce n'est qu'une estimation.
Alors on a cette estimation, mais on a aussi un paradoxe, parce que ce sont des organismes microbiens au quotidien, dans des sacs d'aspirateur ou sur notre peau, mais ils peuvent aussi atteindre des tailles gigantesques, Audrey Dussoutour.
Oui, c'est le humongous fungus, comme ils disent aux États-Unis, c'est l'armillaire couleur de miel qui couvre 10 km². Alors c'est approximativement 1300 stades de foot, pour vous représenter. Et c'est un champignon qui parasite des arbres et ils sont tous connectés. Alors ils forment des filaments qu'on appelle des rhizomorphes, c'est-à-dire des filaments qui sont liés entre eux, qu'on peut vraiment voir à l'œil nu, qui ressemblent comme vraiment qui sont sombres comme ça, on dirait presque de racines de plantes. Et ils sont tous connectés dans les forêts de l'Oregon aux États-Unis.
Marc-André Cellos, on a aussi les rondes sorcières qui peuvent atteindre un diamètre de 300 mètres.
Oui, oui, oui. En fait, quand vous voyez un rond de sorcière, bon, c'est les fructifications que vous voyez, mais le mycélium est en cercle. C'est typique de champignons qui dégradent la matière organique morte du sol. À partir d'un point où est atterri une spore, il pousse en toutes directions, mais il meurt au milieu parce qu'il n'y a plus rien à manger. Et le plus grand rond de sorcière que moi je connais, alors avis aux auditeurs s'ils en connaissent des plus grands, il fait 300 mètres de diamètre, et on compte que donc, vu ce diamètre, il grandit depuis pratiquement 700 ans. C'est quelque chose d'assez impressionnant, hein, parce que finalement, quand vous déterrez, quand vous tirez de la terre à l'endroit où il y a le rond, vous ne voyez rien à l'œil nu. Ah si, le sol sent le champignon quand même, hein. Ça c'est un indice au moins olfactif. Mais si vous cumulez tous les filaments de ça, vous arrivez à plusieurs centaines de kilos allègrement, hein.
On comprend aussi très rapidement à ce stade de l'émission que ce sont les champions de la reproduction. Audrey Dussoutour, comment les champignons se reproduisent-ils? Quelles sont leurs méthodes de reproduction?
Alors la reproduction des champignons, c'est tellement compliqué. Moi je suis une spécialiste des animaux et quand j'ai plongé dans l'écriture de mon bouquin, je me suis dit mais c'est pas possible, cette sexualité elle est complètement... Alors ça part dans tous les sens, donc en effet ils produisent des spores. Mais si on s'arrête là, on n'a rien dit parce que les champignons peuvent se reproduire de façon sexuée, mais aussi asexuée, c'est-à-dire faire du clonage. Ils peuvent faire les deux, ils peuvent se reproduire avec eux-mêmes. Donc, et ils ont des cycles de vie, mais extrêmement compliqués. Je me rappelle, moi, en cours de mycologie, quand j'étais en deuxième année à l'université, que le cycle de Puccinia, qui est un pathogène du blé, j'avais tellement de mal à l'apprendre, parce qu'il y avait 5 types de spores, il y avait 2 hôtes, et c'était extrêmement compliqué par rapport à la sexualité des plantes ou des animaux. finalement.
C'est-à-dire qu'un même champignon peut exister sous plusieurs formes.
Oui, alors c'est le cas par exemple de la malnite phalloïde qui peut se reproduire de manière unisexuée. On dit donc qu'elle se reproduit avec elle-même ou bien faire de la reproduction sexuée. Donc on a plein de champignons comme ça. Puis on a aussi une variété de types sexuels. C'est vrai que nous, on vit dans un monde binaire où il y a le sexe masculin, le sexe féminin. Chez les champignons, c'est comme chez le blob. Il y a plein de types sexuels, mais alors là... Le blob, il a perdu la compète parce que le shiitake, par exemple, le schizophile commun a plus de 23 000 types sexuels, je ne sais plus exactement le chiffre exact. Et donc, on voit cette variété qu'on ne voit pas chez les animaux.
Pour la spore, cette petite cellule libérée qui est relâchée par le champignon et qui va germer plus loin, Marc-André Solos, ils sont capables d'en émettre dans des quantités colossales.
Oui, c'est une des sources, la production de spores, c'est une des sources majeures de particules de l'atmosphère. C'est, on dit, 45% des particules atmosphériques. Chez nous, les écosystèmes en émettent 0,5 tonnes par hectare et par an. C'est-à-dire, et à l'échelle globale, on compte que c'est 50 millions de tonnes de spores qui sont émises dans l'atmosphère. Parce que l'idée, c'est qu'une spore, c'est une petite particule reproductrice, mais qui a très peu de réserves. Donc, elle a peu de chances d'arriver au bon endroit. Et si elle arrive au bon endroit, elle germe en un filament, elle commence à faire un mycélium, mais souvent ça rate. C'est un peu comme les shaddocks, hein. Vous savez, quand ça ne marche pas, il faut le refaire souvent. Et puis ça finit par marcher. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a énormément de spores, très peu finalement auront la possibilité de s'installer, mais comme ce n'est pas très coûteux d'en faire, les champignons en font vraiment, vraiment beaucoup. Et ces spores dans l'atmosphère ont des rôles extrêmement divers, mais on sait aujourd'hui qu'en particulier, ils contribuent à la nucléation des gouttes de pluie. Partie de ces particules autour desquelles se forment les gouttes de pluie, et ils jouent un rôle à la fois donc dans la vie sur Terre, mais aussi dans la chimie et le comportement de l'atmosphère.
Autre stratégie dans leur mode de reproduction, Marc-André Selos, on a du côté de la fécondation, les champignons, on a deux filaments de différentes espèces qui se rencontrent sous Terre grâce à l'émission de phéromones.
Ah oui, alors ça c'est un truc où Audrey disait justement qu'il y a des couches de complexité dans la reproduction des champignons, mais il y a un truc qui est simple, c'est comment ils font ça. Bon, quand on regarde chez les fleurs, le pollen vient sur l'ovaire, ça donne une graine qui est une structure complexe. Chez les animaux, il y a des gamètes qui circulent dans l'eau pour les animaux marins ou qui passent d'un organisme dans l'autre après une fécondation, comme par exemple chez l'homme, et qui donnent le développement d'un embryon. Bon, c'est assez compliqué, mais alors chez les champignons, c'est simple. Quand deux filaments compatibles sexuellement, comme l'indiquait Audrey, sont dans le même secteur, ils émettent des phéromones qui leur permettent de grandir l'un vers l'autre, ils se touchent, là il y a une fusion de deux cellules, et hop, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Et là, de nouveau, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir faire très souvent, parce que ce n'est pas très coûteux comme travail. La plupart du temps, la cellule obtenue, qui est la cellule œuf, qui est le produit de la fécondation, elle n'a aucun avenir, tout va rater, elle va crever, mais... comme ça ne coûte rien, on peut le refaire souvent et ça finit par marcher. En fait, c'est les spécialistes de la stratégie cheap, du low cost de la sexualité. Ils font ça plein de fois et puis ça finit par marcher. Et c'est pareil pour leur production par spore.
Puis on voit que certains champignons ont aussi opté pour la même voie que les plantes et se servent d'insectes pour leur reproduction. Alors, quelle est leur histoire évolutive? Restez à l'écoute.
France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture, on se penche sur le règne des champignons avec Audrey Dussutour et Marc-André Selos. On vient de voir que ces champignons sont omniprésents, qui sont présents dans le sol, l'eau, mais aussi dans l'air que nous respirons, qu'on a vu donc qu'il existe à peu près 150 000 espèces de champignons aujourd'hui identifiées, et ce n'est là encore que la partie émergée de l'iceberg. Alors Aristote est le premier à avoir considéré les champignons, mais au départ il les considère, Audrey Dussutour, comme hop, dans la catégorie des plantes.
Oui, parce qu'à l'époque, on avait une vision très binaire du vivant. Donc, si ça bougeait pas, c'était des plantes. Si ça bougeait, c'était des animaux. Et forcément, un champignon, ça bouge pas beaucoup. En tout cas, on les voit pas à l'œil nu bouger. Et donc, il les a classés dans les plantes. Mais ça a chiffonné beaucoup de personnes. Et parce que ça ressemble à tout, sauf à une plante, un champignon. Et les gens, en fait, avaient une vision pas très joli des champignons. Ils appelaient ça plantes imparfaites. Il y en a qui appelaient ça des tumeurs. Bon, il y avait quand même certaines qui appelaient ça des enfants de Dieu. Il y avait quand même des gens qui aimaient les champignons. Puis après, il y a eu pas mal cette théorie comme quoi ils venaient de la génération spontanée. Alors ça, pour moi, ça m'a surpris quand j'ai fait un peu cet historique-là, parce que quand on voit, par exemple, une veste de loup, on voit les spores quand elle éclate. On les voit à l'œil nu, mais bon, ils n'ont pas fait le rapport, le rapprochement. Et donc, c'est resté quand même pendant longtemps, et on a cru que c'était de la génération spontanée, les champignons, jusqu'à ce qu'une personne, fin 17e, début 18e, identifie les spores et se dise « Ah, ben finalement, c'est un petit peu comme les plantes. » Donc, ils sont restés dans les plantes jusqu'en 1969, où enfin on a créé le règne des champignons, qui s'avère beaucoup plus proche du règne des animaux.
Beaucoup plus proche du règne des animaux, c'est pas si étonnant que ça, Marc-André Sellos, parce que nous avons un ancêtre commun qui remonte à environ 1,3 milliard d'années, et on partage d'ailleurs 50% de notre ADN avec la levure de boulanger. Marc-André Sellos.
Alors, j'ai pas bien entendu votre question, mais...
Je revenais sur cet ancêtre commun que nous avons avec, avec la levure.
Ah oui. Alors, c'est un ancêtre commun qui, pour le coup, n'est pas, ne ressemble pas à grand-chose. Hein. C'est sans doute une sorte d'amibe. Hein. Et on est, il y a un milliard.
Ah, on a quelques soucis de connexion avec vous, j'ai l'impression. Mon réalisateur, la technique, la régie s'en occupe parce que visiblement petit souci de connexion, mais je me tourne vers vous, Audrey Dussoutour, pour cet ancêtre commun, aussi appelé LUFA, Last Universal Fungal Ancestor. À quoi ressemblait-il?
Alors, il ressemblait certainement à quelque chose comme un spermatozoïde. C'était une seule cellule avec une flagelle. Et c'est resté quand même, les champignons, les tout premiers champignons, ils sont restés comme ça. Ils formaient ce qu'on appelle des zoospores, donc qui ressemblent à des spermatozoïdes, qui n'avaient pas encore de parois comme les champignons, et qui colonisaient des algues. Donc l'origine en fait, des champignons se retrouve dans le parasitisme, parce que les premiers champignons, les premiers ancêtres, parasitaient des algues au départ de leur vie.
Comment ces parasites se sont-ils ensuite adaptés au fil de l'histoire, Marc-André Sellos?
Alors d'abord, certains sont restés dans l'eau. Et alors ça, on ne sait pas combien il y en a. Hein. Il y a moins de 10% des espèces de champignons décrites qui sont capables de vivre dans l'eau. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mycologues en bottes ou avec masque et tuba. Donc, on ne sait pas exactement leur diversité, mais il en reste dans l'eau. Et puis, il y a ceux qui sont sortis sur Terre. Alors en particulier, eux, ils n'ont plus du tout de cellules flagellées. Par parenthèse, ces cellules flagellées, hein. Les animaux et les champignons, quand ils ont des cellules flagellées, le flagelle est derrière la cellule et il la pousse, comme dans nos spermatozoïdes. Et ça, c'est un mode d'organisation assez unique. D'habitude, quand il y a un flagelle, une petite expansion qui déplace la cellule, elle remorque la cellule. Donc ça, c'est un trait hérité de notre ancêtre commun. Mais quand ils sont devenus terrestres, eh bien, ils se sont finalement débrouillés sans cellules mobiles. On disait tout à l'heure que pour la fécondation, c'est juste des filaments qui se touchent. Et ils se sont adaptés au milieu terrestre, finalement, en restant dans des endroits relativement humides, même si certains, il y en a même qui forment des petites collines dans les déserts, hein, même si certains tolèrent bien la sécheresse, ils sont actifs que quand il y a de l'eau qui est présente dans le milieu, parce qu'ils ne peuvent pas stocker d'eau. Ils ne peuvent pas faire comme des cactus ou des animaux.
D'ailleurs, par rapport à cette histoire, Marc-André Sellos, on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans notre émission intitulée « Colonisation des plantes, les pieds sur terre », les champignons ont été à la fois la conséquence et la cause de la sortie de l'eau des plantes il y a environ 450 millions d'années.
Oui, alors j'aurais dû commencer par là, c'est qu'effectivement, s'il y a des choses sur Terre et si les champignons passent sur Terre, notamment pour parasiter des plantes ou pour décomposer la matière des plantes, c'est qu'il y a des plantes. Or, ce qui est sorti de l'eau, c'est pas une algue, bien que les plantes descendent des algues, n'est-ce pas? Mais c'est une association avec des champignons et ça a mis un certain temps à apparaître et ça explique qu'alors que le milieu terrestre est habitable depuis au moins un milliard d'années, parce qu'il y a un bouclier d'ozone qui fait qu'il n'y a plus trop d'UV sur Terre, les plantes n'apparaissent qu'il y a 470 millions d'années. On s'est longtemps demandé pourquoi ça a tellement tardé. En fait, c'est sans doute ce qu'il a fallu d'abord avoir l'occasion d'avoir un couple entre un champignon et une algue. L'algue, elle a donné un descendant qui est capable de faire la photosynthèse et d'exploiter les gaz de l'atmosphère, mais les algues n'ont pas de racines. Et il a fallu qu'elles s'associent à des champignons. Et ça, les tout premiers fossiles qu'on a de plantes montrent déjà des champignons associés aux plantes, des champignons qui vont faire les courses dans le sol, c'est-à-dire qui, en échange d'un peu de sucre donné par la plante, par l'organisme photosynthétique, vont aller chercher de l'eau et des sels minéraux à l'intérieur du sol. Et ce n'est que plus tard que les plantes ont eu des racines. qui encore maintenant, d'ailleurs, et c'est ça qu'étudie mon laboratoire, hein, sont encore associés à des champignons. C'est-à-dire que les racines ne font pas directement les courses elles-mêmes dans le sol, elles commissionnent en leur donnant des sucres, des champignons à le faire. Cette association aujourd'hui s'appelle la mycorhize, et elle est un reste du fait que les toutes premières plantes terrestres n'avaient pas de racines et étaient obligées de recourir à des champignons pour exploiter le sol.
Les mycorhizes, cette structure qui n'est ni de la racine ni du champignon, mais bien un mélange des deux et qui est le témoin de cette histoire-là. Alors on l'a vu, la diversité des spécimens fongiques est vertigineuse, avec au sein d'un même ordre une grande variabilité de caractère et avec souvent le point commun d'une grande adaptabilité. On continue d'en parler dans le reportage du jour et c'est avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes allée au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain à l'université Paris-Cité pour observer au microscope une espèce particulièrement omniprésente autour de nous.
Autour de nous et tout terrain, proliférant aussi en milieu extrême. Les Sordariales composent un des ordres les plus diversifiés au niveau taxonomique, avec des modes de vie très différents. Mais malgré son importance, les études sur son écologie et phylogénie restent lacunaires. Philippe Sillard, mycologue et généticien, œuvre à enrichir nos connaissances sur ces spécimens en examinant leur génome, un travail nécessaire qui éclaire aussi sur les avantages écologiques offerts par ces espèces eurytopiques.
Ça, c'est une famille de Sordariales. Voilà. Donc, ce sont des champignons qui sont vraiment omniprésents dans les écosystèmes.
Alors, on regarde. Waouh, oh, c'est impressionnant. On voit vraiment les petites boules reliées avec des filaments.
Oui, alors en
vert,
fait, vous avez une fructification que vous ne voyez pas parce qu'elle est recouverte d'une espèce de tête frisée.
Mm-hmm. Hein? Et sur le bout de copeau de...
Sur le bout de copeau de bois.
Voilà.
Voilà, donc ils mangent le bout de copeau de bois.
D'accord.
Et vous avez deux espèces côte à côte.
Est-ce que je saurais les distinguer?
Oh, bah oui.
Ah oui. Ah oui,
donc, ça. Là, il n'y a pas de photo.
Même taille, pas même couleur.
Il y a des gris, il y a des verts, verts jaunes.
C'est beau.
C'est très esthétique, hein, toutes ces moisissures.
C'est presque un paysage onirique.
Oui, c'est très, très... Oui, je suis d'accord.
Alors, donc, les Sordariales, elles ont été définies sur des critères maintenant de phylogénie moléculaire, c'est-à-dire qu'on a séquencé un certain nombre de gènes code-barre, voire en ce moment de génome, et on s'aperçoit que tous ces champignons sont apparentés les uns aux autres, et ils ont comme caractéristique commune de fabriquer des fructifications particulières qu'on appelle des périthèces. Et ces périthèces ont en général une teinte verdâtre, noirâtre, foncé, puisqu'ils sont colorés par de la mélanine. À l'intérieur, donc, il va y avoir des spores, et dans la majorité des cas aussi, ces spores sont pigmentés dans une couleur vert foncé, noir. Alors, ce n'est pas très sexy, hein, mais c'est d'une grande diversité. Et surtout, les analyses indiquent que ce sont probablement les champignons les plus présents dans les sols. Donc ça, il y a
dans les sols sous tout climat,
alors
milieu,
oui, nous, on teste d'à peu près...
On parle de sol forestier, de sol...
Oui, sol forestier, sol de prairie,
tourbe,
sol de tourbière. On a testé aussi les jardins d'à côté, tout bêtement, le sol de votre jardin, votre pot de fleurs. Dans vos pots de fleurs, vous en avez. Et donc, virtuellement, de toutes les petites cuillères de sol qu'on me rapporte, j'arrive à isoler des Sordariales. Donc l'idée, c'est... On ramène des échantillons, j'isole des souches qui me semblent des souches de Sordariales. Donc pour ça, j'ai mis au point un milieu sur lequel la fructification, c'est-à-dire la production des structures de reproduction sexuée des Sordariales est favorisée, ce qui fait qu'elles apparaissent. Voilà par exemple des échantillons qu'on m'a ramenés. Donc ce milieu, vous voyez, c'est un milieu un peu compliqué sur lequel on met... comme source de carbone, un milieu, enfin quelque chose de complexe qui est du miscanthus broyé. On met une source d'azote qui est de l'urée, donc, et puis on ne met pas de carbone. Ce qu'on met, c'est donc du miscanthus broyé qui va fournir un carbone complexe. Et les Sordariales, parmi leurs propriétés, ce sont des champignons efficaces, enfin efficaces autant qu'on peut dire pour les ascomycètes, pour dégrader la lignine. Donc eux, ils n'ont strictement aucun problème pour pousser sur ce genre de milieu.
Donc ça prolifère bien.
Donc là, ça prolifère bien et surtout dans un échantillon. Donc, vous voyez, on met même pas un gramme de sol qu'on rajoute. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, le sol, il est là. Hein, voilà. Donc, voilà. On rajoute, une petite cupule de sol. Et dans une cupule comme ça, il y a probablement déjà plusieurs centaines d'espèces de champignons. Donc, si on on ne met pas au point un milieu spécial pour isoler les sardariales, ce qui va pousser en premier, et majoritairement, ça va être les champignons les plus rapides. Or, les sardariales, on a quelques espèces extrêmement rapides, par exemple les sardarias, ça pousse à 3 cm par jour, donc ça veut dire que ça... C'est-à-dire que vous inoculez la boîte de pétri là au centre, et demain, elle aura envahi pratiquement toute la surface de la boîte de pétri. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous passez par exemple à des schizotéciums, là, on peut être à 1 mm par semaine. Et ceux-là, sur ce milieu-là, ils vont avoir plus de chances d'avoir un réseau de mycélium et plus de chances de fabriquer des fructifications, ce qui va nous permettre, nous, de pouvoir les récupérer. Okay. Donc, on les récupère, on les purifie. Donc, à partir de ce moment-là, on va les avoir sur boîte de pétri purifiée.
Qu'est-ce qu'on appelle purifiée ? On va filtrer.
Sur la boîte initiale que je vous ai montrée, il y a plein d'espèces les unes avec les autres. Mais là, a priori, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un seul champignon, une seule espèce de champignon.
On isole, ouais.
Donc on isole et on purifie, voilà.
Okay. Alors, on les met donc dans le frigo.
Alors, on les conserve après au frigo parce qu'une fois que ça a poussé, autrement on les fait pousser, bon, on peut les faire pousser à température ambiante. Hein,
c'est quoi leur température ? Vous m'avez parlé d'une grande variabilité de conditions.
Par exemple, les schizotéciums, ils préfèrent plutôt les climats un peu froids, donc vaut mieux les mettre à pousser à 22, par exemple. Ça, ils aiment bien. Podospora, c'est plutôt 25. Mais maintenant, vous avez des caetomiums thermophiles, là, ça va être 55 degrés. Et vous avez tout l'échantillonnage entre les deux. Alors, on sait par exemple qu'il y a des sardariales dans les sols arctiques et antarctiques. Ah oui. Et donc, on peut prédire que peut-être que ces espèces-là, leur optimum de température va plutôt être aux alentours de 10-12 degrés, par exemple. Et donc après, on fait ces arbres phylogénétiques et surtout, on a développé avec mon collègue Christophe Lalanne un petit programme qui nous permet de comparer les génomes entre eux. Et en comparant les génomes entre eux, on peut calculer ce qu'on appelle l'ANI pour Average Nucleotide Identity. Et cette Average Nucleotide Identity, en fait, c'est une mesure de la distance qu'il y a entre les deux génomes. Et on a une petite représentation graphique que je peux vous montrer qui nous permet immédiatement de voir si oui ou non on a affaire à la même espèce ou pas. Donc vous avez une espèce de petite représentation graphique, un diagramme avec des barres colorées. Donc, la longueur des barres représente le nombre de séquences qu'ils vont avoir, le pourcentage d'identité indiqué par les couleurs. Par exemple, vous avez ici un exemple typique de ce qui se passe quand on compare des souches qui appartiennent à la même espèce. Et donc là, en fait, vous voyez que les barres sont principalement roses et magenta. Ça nous indique que c'est la même espèce.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur votre appli préférée. Audrey Dussutour, une réaction à ce qu'on vient d'écouter ?
Ça fait déjà très plaisir d'entendre Philippe Sylar, parce qu'on avait fait une émission ensemble sur les myxomycètes, qui ne sont pas des champignons, qui sont les blobs. Mais oui, c'est... Alors la classification des champignons, moi je ne suis pas du tout mycologiste. Et c'est quelque chose... Alors tous ces noms d'espèces, c'est vraiment très différent du monde animal, où on a des noms vernaculaires pour énormément d'espèces, donc chien, chat. Chez les champignons, on se trouve très vite confronté à ces noms latins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de champignons, mis à part ceux qu'on mange, qui ont un petit nom vernaculaire.
Alors ces champignons, en tout cas, on distingue plusieurs types de champignons. Trois principaux, les symbiotiques, les saprobes et les parasites. Alors les parasites, on y reviendra, on garde le meilleur pour la fin. Par rapport aux champignons symbiotiques, une plante sur 10 a des champignons sur ses racines, Audrey Dussutour. Ces champignons mycorhiziens sont cruciaux pour la santé des plantes.
Oui, alors on dit qu'il y a 90% des plantes qui vivent en association avec des champignons. Et il y a deux grandes familles de champignons qui peuvent faire les mycorhizes, les gloméromycota et des basidiomycota en majorité. Et donc oui, c'est ce que disait Marc-André tout à l'heure, c'est que la plante, elle va récupérer du champignon l'eau, les sels minéraux, et en échange, elle va le donner du sucre. Donc c'est fondamental parce qu'on voit bien dans un réseau de racines de plantes, avec ou sans champignons, la différence, elle est assez flagrante. Donc là, on va avoir des... Mais toujours, c'est un équilibre où... Il y a des champignons qui peuvent être donc des symbiotes, mais des fois, ils peuvent devenir des parasites. Et on voit vraiment des fois l'ambivalence du champignon et l'opportunisme surtout du champignon. Et je pense par exemple à un champignon qui s'appelle Metarhizium, qui est un champignon qui va parasiter les insectes, mais qui peut aussi vivre en association avec des plantes. Et c'est un petit peu le Robin des Bois des champignons, parce qu'en réalité, il pique l'azote des insectes pour le distribuer aux plantes. Et il y a une expérience qui est très jolie qui a montré ça, parce qu'ils ont marqué radioactivement l'azote dans une chenille, et cette chenille a été contaminée par un champignon, et ce champignon était connecté à une plante, et on a vu l'azote radioactif passer dans la plante.
Mais t'as Metarhizium, ce Robin des Bois, enfin, ça dépend aussi de la disponibilité d'un hôte, tout ça.
Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup il y a différents types de parasitisme. Il y a le parasitisme obligatoire, où là, le champignon, il n'a pas le choix. C'est le cas de Ophiocordyceps, le champignon qui fait des zombies à partir des fourmis. Lui, il a besoin de la fourmi. Il ne peut pas vivre sans son hôte, alors que Metarhizium peut très bien être des fois sa probe, des fois parasite et des fois symbiote. Donc ça dépend vraiment de l'espèce de champignon.
Par rapport aux champignons symbiotiques, Marc-André Sellos, on a donc des champignons qui vivent en association avec les plantes, mais aussi avec d'autres organismes, y compris nous.
Ah ben oui, ben déjà quand vous voyez un lichen, c'est un mycélium très particulier, très formé et visible à l'œil nu de champignons qui emprisonne des algues. Et les lichens, ça fonctionne comme les mycorhizes, l'algue fait la photosynthèse et le champignon va chercher l'eau et les sels minéraux. Mais il y a aussi des symbiotes d'animaux, et nous-mêmes, nous avons des levures sur nous, hein, j'évoquais les levures tout à l'heure, notamment les malassezia qu'on a sur la peau. Alors quand on en a beaucoup qui prolifèrent, comme elles ont des enzymes qui leur permettent de dégrader les protéines, c'est des petites squames à la racine du nez ou des pellicules, mais quand il n'y en a pas beaucoup, ben, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'elles nous permettent notamment, elles sont très bons écrans contre le staphylocoque doré, et 8 personnes sur 10 est porteuse du staphylocoque doré, mais il est tellement ennuyé par d'autres microbes, notamment ces fameuses malassezias en compagnie desquelles il est sur notre peau, qui ne se développent pas. Mais je voulais faire un petit commentaire par rapport à ce qui était dit sur le Metarhizium, là, qui est vraiment un truc impressionnant. Mais en fait, quelqu'un fait des recherches sur les champignons qui décomposent la matière organique dans le sol, il dit tiens, ce champignon que je trouve là, c'est un décomposeur. Quelqu'un fait des recherches sur les mycorhizes, il dit tiens, le champignon que je trouve sur la racine de cette plante, il est mycorhizien. Quelqu'un fait des recherches sur des maladies et il trouve un champignon qui rend la plante malade et il dit c'est un pathogène. Mais les champignons, ils s'en foutent de la sociologie, de la mycologie, ils s'en foutent de qui les a trouvés, et leurs niches écologiques sont plus compliquées. Au début de ma carrière, j'avais montré que des champignons qui décomposent les feuilles mortes dans l'eau, qu'on appelle les champignons ingoldiens, bon, c'est plusieurs groupes de champignons, il y a même des sortes d'Arial dedans, pour faire plaisir à Philippe Szilard, en réalité, ils avaient une autre niche écologique. Alors au début, tout le monde était modéré en disant que ce jeune chercheur hallucinait, puis finalement, c'est montré maintenant. Ils vivent dans les feuilles des arbres. Mais en fait, en gros, c'est leur fin de vie, quoi. Si la feuille tombe dans l'eau, les conditions sont encore favorables au développement, et ils se transforment en mangeurs de feuilles mortes. Et de plus en plus, on voit, nous, on a découvert que la truffe, par exemple, qui fait des mycorhizes sur les arbres, eh bien, elle est aussi parasite des petites plantes herbacées. Et ça explique la zone de brûlé autour des arbres qui abritent la truffe, c'est que les petites plantes se développent moins bien, et c'est comme si ça avait été brûlé parce que la truffe les parasite. En fait, on découvre de plus en plus que les petites cases qu'on avait faites bien rangées, y a plein d'espèces qui tombent entre les cases et qui occupent plusieurs niches écologiques parce que les champignons ont construit leur écologie, pas comme nous, on a construit les recherches mycologiques.
En tout cas, ces mangeurs de feuilles mortes, c'est aussi cette seconde fonction essentielle chez les champignons, Audrey Dussoutour. Ils décomposent la matière organique morte. Ce sont les grands recycleurs. Ils décomposent tout ça autour d'eux. Ils servent de composteurs, en fait.
Oui, on estime à 90% de la biomasse des plantes mortes qui est décomposée par les champignons. Et s'il n'y avait pas de champignons, on aurait de graves problèmes puisque les plantes consommeraient tout le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Donc, ils font partie de ce cycle du carbone, c'est fondamental. Et donc, ils attaquent toute matière organique et même les sabots, les cheveux, les griffes. Donc, ils peuvent même vraiment décomposer des matières qui sont très coriaces. Et c'est vrai que les champignons, c'est les champions de la production d'enzymes capables de digérer des choses que nous, par exemple, humains, nous ne pouvons pas digérer.
Et tous les matériaux, le verre, le bois, même le métal, tous les matériaux ne sont pas à l'abri de l'attaque des champignons. On peut penser à la mérule, hein, ce simple nom fait trembler. Alors comment les champignons s'alimentent-ils ? Restez à l'écoute.
Thank you.
Welcome to the Mushroom de The Prisoners en direct sur France Culture, car nous parlons des champignons en compagnie de nos deux invités du jour, Audrey Dussoutour, biologiste et directrice de recherche au CNRS, et Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'Institut Universitaire de France. On vient de voir que cela fait des millions d'années que les plantes sont associées aux champignons, qui les aident à aller chercher de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Nous parlions de leur capacité de digestion assez remarquable. Marc-André Sellos, contrairement aux animaux, les champignons ne peuvent pas avaler, entre guillemets, leur nourriture. Ils doivent la digérer à l'extérieur de leur corps. Comment fonctionne ce système digestif externe ?
Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais autour des cellules qui constituent les filaments des champignons ou autour des levures, eh bien, il y a une petite paroi qui les protège. Donc, il aurait absolument impossible d'avaler des grosses molécules ou des petits objets qu'ils pourraient digérer à l'intérieur de leurs cellules. Ben non, ils ne peuvent pas. Donc, ils émettent des enzymes et ils digèrent autour de la meilleure façon de vous en convaincre, c'est un camembert qui devient coulant. Au début, il était plâtreux, hein, il était ferme, et les champignons sont sur la, ils sont évidemment autour, hein, et c'est les filaments blancs qu'il y a tout autour. Et ce sont des pénicillums en l'occurrence. Et le camembert devient liquide par la périphérie. Cette liquéfaction, c'est les enzymes du champignon qui coupent les protéines qui font le caillet du lait, qui font le fromage plâtreux, et qui le réduisent en toutes petites molécules, en petits acides aminés, ou qui peuvent passer à travers les pores de la paroi du champignon. Alors ça s'appelle une digestion externe. D'autres champignons d'ailleurs produisent des enzymes qui, elles, vont faire des radicaux libres. C'est comme ça que la lignine est détruite. La lignine, c'est le composé dur du bois, c'est quand même 400 milliards de tonnes produites chaque année, autant à l'échelle globale de dégradés par les champignons et les champignons. Seulement, il n'y a qu'eux qui savent faire ça, parce qu'il y a eux qui ont inventé ce dispositif fait de radicaux libres. Et pour le coup, c'est un truc important, c'est que c'est quand même les rois de la décomposition et de la digestion externe.
Ils sécrètent des enzymes pour décomposer tout ce qu'ils rencontrent, pour défendre leur nourriture. Ils produisent souvent des toxines. Audrey Dussoutour, ces organismes, ce sont de véritables usines de biosynthèse et de synthèse de molécules.
Oui, et d'ailleurs, on s'en est beaucoup inspiré. Nous, les humains, puisqu'il y a beaucoup de champignons qui sont à l'origine de médicaments. Et des fois, c'est des champignons parasites, comme Tolipocladium, un petit parasite d'un scarabée qui fait partie de la famille des Ophiocordyceps, et qui a permis de découvrir une molécule qui est un immunosuppresseur, qui s'appelle la cyclosporine, et ça a permis les greffes d'organes. Et donc, on estime à 800 000 personnes qui ont été sauvées, finalement, par cette molécule produite par un champignon. Et bien sûr, on a la plus connue, la pénicilline, mais on a aussi les statines qui régulent le cholestérol, qui sont aussi un produit des champignons. Donc, il y a énormément de molécules. Alors, des fois, c'est des bonnes molécules qu'on peut utiliser. Des fois, ça se retourne contre nous, comme certains parasites qui font des infections invasives, comme Aspergillus, qui vont sécréter des gliotoxines et qui vont, elles, attaquer notre système immunitaire. Donc, voilà, il y a toujours un yin et un yang.
Oui, Marc-André Sellos, on a aussi pas mal d'exemples de toxines dangereuses.
Oui, alors ça, c'est important de voir que derrière la chimie que décrit Audrey, il y a quand même des choses qui affaiblissent le système immunitaire, les cyclosporines, des choses qui réduisent la synthèse de cholestérol, les statines, des antibiotiques qui sont en fait des choses qui tuent les bactéries. C'est des façons dont les champignons défendent ce qu'ils ont digéré à l'extérieur d'eux-mêmes en mettant dans le milieu des toxines qui vont empêcher les profiteurs de venir manger. Nous, comme on digère à l'intérieur du tube digestif, on n'a pas ce problème, on est propriétaire des produits de digestion en quelque sorte. Mais alors, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a... Enfin, ce qui est intéressant, non. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que finalement, dans tout ce qui n'est plus vivant, les champignons ont tendance à envahir. Et la première chose qu'ils font, c'est de mettre des toxines pour être sûr d'être les seuls. Et c'est comme ça que 25% de nos aliments, figurez-vous, sont contaminés par ce qu'on appelle des mycotoxines, c'est-à-dire des toxines émises par les champignons, difficiles à détecter parce que leurs structures chimiques sont extrêmement variées, mais qui par contre ne sont pas très bonnes pour la santé. Notamment en Chine, par exemple, où vous avez des conditions de stockage qui ne sont pas toujours optimales, des céréales, notamment en Chine méridionale, où il y a pas mal d'humidité, les champignons commencent à s'installer et ça explique un facteur 30. Enfin, c'est en cours de réduction parce qu'ils le gèrent de mieux en mieux, mais la présence accrue de mycotoxines dans les céréales explique qu'il y ait 30 fois plus de cancers du foie en Chine qu'en Amérique, par exemple. Donc, si vous voulez, ces mycotoxines, ça montre qu'ils émettent des substances pour protéger le milieu, y compris vis-à-vis d'animaux, et Ça, une fois de plus, bah, dans un quart de nos aliments, il y en a. C'est pas une très très bonne nouvelle, parce qu'une fois de plus, c'est cancérigène. C'est quelque chose qui est pas très très bon pour notre organisme. Nous aussi, on peut être des cibles de champignons, et on pourrait aussi parler d'ailleurs des champignons mortels, qu'il faut pas manger.
C'est qu'ils sont à la fois nos alliés et nos ennemis. Grâce à eux, on a des millions de vies qui ont été sauvées par la découverte de la pénicilline. Et puis, ils causent aussi plus de 2,5 millions de décès chaque année, Audrey Dussetour.
Oui, alors ça, c'est aussi, c'est pas des champignons qui sont spécialistes sur l'être humain. Hein, c'est encore des champignons qui peuvent très bien dégrader de la matière organique et que, qui contaminent l'humain par accident. Et le champignon, c'est un opportuniste. S'il arrive sur un humain par accident, bah, il va se développer là où il est tombé. Et donc, et les personnes qui sont immunodéprimées sont fortement touchés parce que nous, ce qui nous protège la majeure partie des champignons, c'est d'une part notre température corporelle qui est très élevée, puisque les champignons sont plutôt mésophiles et donc prospèrent entre 25 et 30 degrés. Nous, on est à 37, donc ça nous protège. Et ensuite, un système immunitaire qui est quand même très complexe par rapport à celui, par exemple, des insectes. Et quand on est immunodéprimé, ben en fait, le champignon, s'il est adapté déjà aux températures élevées, va pouvoir se développer plus facilement. Et c'est le cas des aspergilloses invasives, des candidoses invasives ou des méningites cryptocoquiques, qui sont vraiment des maladies qui sont des infections qui sont très graves et qui ont des pourcentages de mortalité qui sont assez effrayants, parce qu'on a jusqu'à 70% de mortalité avec Cryptococcus. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai problème, parce que souvent, les gens sont traités pour une maladie, en particulier par exemple les cancers ou le VIH, et des fois ils meurent plutôt d'une infection fongique finalement que de la maladie.
Je propose qu'on continue d'explorer l'aspect dangereux, en tout cas destructeur des champignons, avec un extrait, une lecture de votre ouvrage, Audrey Dussetour. Il y a à peine un siècle, existait un colosse végétal qui dominait les forêts américaines, le châtaignier Castena dentata. Ces titans pouvaient atteindre la hauteur d'un immeuble de 12 étages, 37 mètres, avec un tronc plus large qu'une voiture. Présent depuis 85 millions d'années en Amérique du Nord, soit bien avant que les premiers humains ne foulent le continent, il représentait au début du XXe siècle un arbre sur quatre aux États-Unis. Mais voilà qu'en 1904, entre en scène un minuscule champignon, Cryphonectria parasitica, qui allait accomplir l'impensable. En quelques décennies, ce parasite a exterminé 4 milliards de châtaigniers sur une surface de 3,6 millions d'hectares. Imaginez, 50 fois le nombre de châtaigniers en France. Riez de la carte. Aujourd'hui aux États-Unis, les Chestnut Streets ne sont plus que des rappels nostalgiques d'une époque révolue. L'ironie de l'histoire, ce champignon a été accidentellement introduit depuis l'Asie de l'Est via l'importation de châtaigniers. Au début du 19e siècle, aux États-Unis, pour moins d'un dollar, n'importe qui pouvait acheter un châtaignier japonais dans une pépinière, soi-disant plus jolie que la version américaine. Si le champignon n'était qu'un petit désagrément pour le châtaignier japonais, Castanea crenata, son partenaire de danse depuis des millions d'années, il s'est révélé être un tueur impitoyable pour son cousin américain, Castanea dentata. Un extrait de votre ouvrage « Les champignons de l'Apocalypse ». Voilà, les parasites, ça représente 30% des champignons. Ce titre, « Champignons de l'Apocalypse », c'est une référence, un clin d'œil à un champignon qui a été particulièrement destructeur.
Oui, Batrachochytrium dendrobatidis, qui est le champignon qui a attaqué les amphibiens. Et ça, c'était donc dans les années 90, c'est toujours le cas, hein. Il n'a pas disparu, mais c'est dans les années 90 que les gens ont commencé à se soucier de ça, parce qu'en fait, on avait des extinctions d'espèces à plusieurs endroits, et les gens n'avaient pas fait le rapprochement avec une maladie entre guillemets commune. Et c'est lors d'un congrès où les gens ont discuté entre eux, ils ont dit « mais moi aussi, cette grenouille a disparu, moi aussi ». Et puis finalement, ils ont un petit peu creusé, et là, c'est là où ils ont trouvé ce champignon, qui est originaire d'Asie lui aussi, et qui a été introduit par les espèces exotiques qu'on en voit aux quatre coins de la planète, comme la grenouille taureau ou à l'époque le xénope. Et c'est un champignon qui a tué énormément d'amphibiens. Il y a une centaine d'espèces qui ont disparu suite à ce champignon, dont la grenouille dorée au Panama ou la grenouille gastrique en Australie. Et c'est vraiment... ils avaient parlé d'apocalypse parce que vraiment, ils ne savaient plus quoi faire pour lutter contre ce champignon. Et surtout, on voyait que les amphibiens n'avaient pas de défense. Et donc, heureusement, ces dernières années, ils ont vu qu'il y a beaucoup d'amphibiens qui ont commencé à développer des résistances, en particulier grâce à leur microbiote, en fait, au niveau de la peau, puisque c'est un champignon qui attaquait la peau. Mais, bien sûr, il y a toujours un nouveau champignon. Et donc, il y a Batrachochytrium salamandivorans, qui dévore maintenant les salamandres et qui risque d'arriver en Amérique du Nord. Et celui-ci est beaucoup plus vorace que le premier.
Dans votre ouvrage, il y a un grand nombre d'exemples de parasitages qui, je pense, peuvent inspirer pas mal de scénaristes, d'ailleurs, de films. On estime donc qu'une espèce d'insecte sur deux est parasitée par un champignon. Il y a des cas de zombification que vous décrivez, notamment de zombification chez les cigales.
Ah ouais, ça c'est mon histoire préférée. Parce que quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est fou. Donc, c'est sur les cigales périodiques. Donc les cigales périodiques, c'est des cigales qui émergent tous les 13 à 17 ans, selon l'espèce, en masse, comme ça, c'est des millions de cigales. Et au moment où elles émergent, elles sont des nymphes, alors elles ne sont pas très belles, ça ressemble à des quasimodos, comme ça. Et elles récupèrent des spores d'un champignon qu'on appelle Massospora. Et là, le champignon ne fait pas grand-chose, il germe, il rentre. Là, il se tient tranquille, et là, elle se métamorphose en adulte, en une cigale beaucoup plus jolie. Et là, on va rentrer dans la période de reproduction des cigales. Parce que les cigales, elles passent 13 ans dans le sol, mais après, elles font un spring break. Donc, pendant l'été, elles se reproduisent. Et donc là, le champignon, lui, il va directement vers les parties génitales de la cigale, mâle ou femelle. Là, il se nourrit des parties génitales. Et il va produire ce qu'il fait d'habitude, un champignon. Il produit des spores en quantité astronomique. Ça finit par casser le derrière, le postérieur, l'abdomen de la cigale. Donc on voit apparaître un bouchon fongique. Et là, ils vont commencer à sécréter des amphétamines qui vont rendre les cigales femelles ou mâles hypersexuelles. Et qui vont aussi rendre les mâles, entre guillemets, aussi... ils vont être autant attirés par les femelles que les mâles. Et ils vont commencer à se comporter comme des femelles quand ils sont face à un mâle. Donc on aura des espèces d'accouplements homosexuels. Et ils vont se comporter comme un mâle quand ils sont face à des femelles. Et comme ça, les spores vont pouvoir se disséminer. Et il y a même quelques Massospora qui sécrètent des hallucinogènes. Donc il y a des cigales qui sont aussi en plein trip pendant qu'elles ont le champignon qui leur ronge le postérieur. Et ce qui est assez surprenant d'un point de vue, moi, du comportement animal, c'est que la cigale n'est pas gênée par le physique. Il lui manque quand même la moitié de l'abdomen. Et elles se reproduisent quand même. Et donc elles vont comme ça disséminer le champignon. Et quand le champignon, en fait, quand elles contractent un champignon pendant un accouplement, là, le champignon, il passe en mode plutôt production de spores de repos. Et là, c'est des spores qui sont beaucoup plus brunes et là, qui contaminent tout l'abdomen. Et là, elles vont être déversées par les cigales comme des canadaires. Là, c'est l'abdomen qui s'ouvre et c'est toutes les spores qui tombent en même temps. Et elles vont tomber dans le sol. Et là, elles vont pouvoir infecter l'année d'après les cigales qui vont émerger.
Un bel exemple de parasitisme, merci.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Docteur Schoenheiss, vous soupirez.
Ces infections fongiques ne peuvent se produire chez l'humain.
Oui, c'est un fait. Les champignons ne peuvent survivre si la température corporelle de leur hôte dépasse les 35 degrés. Et à l'heure actuelle, ils n'ont aucune raison d'évoluer pour supporter de plus fortes températures. Mais si les choses venaient à changer, imaginons, par exemple, que le monde devienne un petit peu plus chaud. Dans cette situation, ils auraient une raison d'évoluer. Une simple mutation et les ascomycètes, les candidats, les ergots, les cordyceps, les aspergillus, n'importe quel champignon serait capable de se frayer un chemin vers notre cerveau et de prendre le contrôle de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards d'entre nous.
Un clin d'œil à la première saison de The Last of Us en direct sur France Culture, car nous parlons de champignons avec Marc-André Cellos et Audrey Dussoutour, qui porte un t-shirt d'ailleurs de la série. J'ai cafeté. Marc-André Cellos, on arrive vers la fin de cette discussion. On a vu que les champignons étaient essentiels pour l'équilibre des écosystèmes. Quel futur pour les champignons avec le réchauffement climatique?
Alors, dans la lignée du livre d'Audrey, effectivement, c'est une menace majeure pour nos récoltes, moins pour notre santé, parce que ce qui est écrit dans The Last of Us, c'est peu probable que ça se produise. On en avait parlé ensemble dans une émission de France Culture il y a quelques temps. Non ?
Tout à fait. Il va y avoir des spores. On vous met le podcast sur notre fil Blue Sky.
Ah oui, c'était ça. Alors en fait, il y a moins de risques de mourir de champignons, même s'il y a des aspergilloses pulmonaires que décrivait Audrey, que les champignons boulottent ce qu'on pourrait manger nous-mêmes. Et en tout cas, il ne faut pas que la partie émergée de l'iceberg cache ce qu'il y a en dessous, c'est que c'est quand même des architectes du monde où nous vivons, en décomposant, en aidant les plantes à pousser, en contribuant à notre santé, à nous-mêmes. Et ce sont quand même aussi des organismes qui ont une place positive dans nos existences. La nature est ainsi faite que tout y est à la fois bon et mauvais.
Audrey Dussautour, par rapport justement à ce problème qu'est le réchauffement climatique et l'évolution des champignons.
C'est clair, je suis d'accord avec Marc-André, les champignons, il y a des scénarios, hein. Si les champignons disparaissaient, ben, on croulerait sous les ordures, on n'aurait plus de plantes, plus rien, enfin le monde serait fini. L'humain disparaît, tout continue, quoi. Donc vraiment, il y a une place primordiale des champignons, et ils sont touchés aussi par le réchauffement climatique, puisqu'il y a des champignons qui ne sont pas du tout adaptés aux hautes températures. Donc bien sûr, on parle toujours des espèces qui vivent dans des milieux extrêmes, comme les réacteurs de Tchernobyl, l'ISS, etc. Mais il y a des champignons qui ne vont pas être capables de s'adapter au réchauffement climatique et qui vont disparaître. On voit aussi l'arrivée de champignons, d'espèces invasives qui vont prendre la place d'autres champignons dans l'environnement. Et on a aussi, en effet, des champignons qui vont s'adapter aux hautes températures. Et c'est Arturo Casadevall qui a fait une étude sur 4000 souches de levures différentes et qui a montré que dans ces dernières décennies, il y avait une adaptation progressive aux hautes températures. Et il a en particulier nommé cette levure qui s'appelle Candida auris, qui peut créer des candidoses invasives chez l'humain, qui est apparue autour de 2009, au début comme une singularité, mais qui est maintenant dans tous les 60 pays, dans les hôpitaux de 60 pays, et qui tue par candidose invasive. Donc on va avoir d'autres champignons qui vont peut-être nous poser des problèmes, mais on va aussi perdre des champignons qui nous sont essentiels. Donc il est vraiment important de garder le taux de CO2 sous contrôle.
Et par rapport à Candida auris, en plus le problème c'est que les antifongiques qui sont utilisés contre ces infections sont également utilisés en agriculture et que c'est un peu le même souci qu'on rencontre avec les résistances aux antibiotiques. On voit des souches résistantes aux antifongiques. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes on retrouve la chronique Avec Science, mais pour prolonger le plaisir, rendez-vous en librairie ou en médiathèque pour l'ouvrage Les champignons de l'apocalypse d'Audrey Dussautour aux éditions Grasset. Et rendez-vous également au festival Les Anthropocènes qui se poursuit jusqu'au 4 mai à Évreux. Vous faites partie, Audrey Dussautour, de sa belle programmation. Vous y serez vendredi, c'est ça?
Oui, vendredi le matin pour les enfants et le soir pour le grand public.
On vient de vous publier là encore sur Blue Sky tous les détails de l'édition. Merci Marc-André Sédolos, merci Audrey Dussautour. Tout de suite, on a rendez-vous avec Alexandra Delbeau et ses exoplanètes. C'est la chronique Avec Science.
Comment meurent les exoplanètes? Habituellement, la mort, donc la désintégration de planètes, est liée à l'évolution de leur étoile. Prenons l'exemple du Soleil. Lorsque notre étoile arrivera en fin de vie, donc lorsqu'il n'y aura plus de carburant dans son cœur, elle va grossir, grossir et grossir pour devenir une géante rouge. Et au passage, elle engloutira Mercure, Vénus et peut-être la Terre avant d'exploser. Ça, c'est le scénario le plus classique. L'étoile meurt et dévore ce qu'il y a autour. Mais tous les systèmes planétaires ne ressemble pas à notre système solaire. Il existe dans l'univers des exoplanètes qui vivent très proches de leur étoile et dont la fin de vie pose question. J'ai nommé les Jupiter chauds. Guillaume Hébrard est directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris et à l'Observatoire de Haute-Provence. Il travaille sur la recherche et la caractérisation des planètes extrasolaires.
Cette année, en 2025, on célèbre les 30 ans de la découverte de la première planète extrasolaire. Et cette première planète extrasolaire, c'était un Jupiter chaud, c'est-à-dire une planète grosse comme Jupiter, massive comme Jupiter, mais très proche de son étoile. Alors que notre Jupiter, dans le système solaire, tourne en 12 ans autour du Soleil, et qui est à peu près 5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre n'est éloignée du Soleil, les Jupiters chauds, notamment la première qui a été découverte en 1995, et puis les centaines d'autres qui ont été découvertes, et celles dont on parle aujourd'hui, elles font à peu près la même taille, la même masse que Jupiter, mais elles tournent juste en quelques jours autour de leur étoile. Elles sont à juste quelques pourcents de la distance Terre-Soleil par rapport à leur étoile. Donc ce sont vraiment des planètes très particulières et elles sont tellement proches de leur étoile que bah, justement l'interaction entre l'étoile et la planète se pose plus que pour une planète moins extrême. Deuxième point, c'est que ces planètes qui sont extrêmement proches de leur étoile, on a du mal à imaginer qu'elles aient pu se former là. Il paraît assez clair qu'elles se sont formées plus loin de leur étoile et donc qu'elles se sont rapprochées de leur étoile. Ce sont des planètes pour lesquels cette question de la fin de la vie se pose tout particulièrement.
Comment meurent les Jupiters chauds? Est-ce que ces planètes se font gober par leur étoile comme les autres? Ou est-ce qu'elles peuvent tomber dedans parce qu'elles s'approchent trop près? Pour répondre à cette question, il faut un peu de chance, regarder le ciel au moment où ça se passe et déterminer à partir de la lumière de l'étoile qu'une planète est morte ici. Et c'est ce qu'ont observé des scientifiques en 2020, mais ils se sont d'abord trompés. L'événement est nommé ZTF-SLRN 2020. C'est un petit peu barbare, mais ça nous donne trois informations. ZTF, c'est un instrument qui cartographie le ciel à la recherche d'événements lumineux et transitoires. 2020, facile, c'est la date de l'observation. Et SLRN, c'est la catégorie d'événements, une nova rouge sublumineuse. Comprenez, une explosion d'étoiles qui brille un peu, mais pas beaucoup. Et c'est ce pas beaucoup qui a abouti à une erreur d'interprétation. Selon une première étude parue en 2023, donc il y a 2 ans, la bouffée lumineuse observée est le résultat de l'engloutissement d'une planète, l'étoile a grossi et a gobé ce Jupiter chaud, mais les mêmes scientifiques reviennent aujourd'hui sur cette explication dans une nouvelle étude parue dans The Astrophysical Journal, des observations menées cette fois par le James Webb, qui suggère que l'exoplanète n'a pas été engloutie par l'étoile, elle s'est en fait jetée dedans.
C'est qu'en fait, l'étoile n'est pas arrivée en fin de vie, c'est pas devenu une géante rouge, c'est à l'inverse, la planète qui a continué à se rapprocher de son étoile et qui a fini par tomber d'une certaine manière sur son étoile. C'est une interprétation des données qui doit être vérifiée, qui doit être confirmée par d'autres observations, mais en tout cas, c'est un scénario très vraisemblable. Et donc, qu'est-ce qui peut expliquer la migration? Pourquoi une planète peut s'approcher ou s'éloigner de son étoile? Ce sont les interactions, d'une part, avec le gaz, la poussière qui entoure l'étoile, notamment dans les époques jeunes du système planétaire. À cette époque-là, il y a beaucoup plus de gaz et de poussière qui entourent l'étoile au moment où les planètes se forment. Mais ils peuvent en rester encore par la suite. Et donc, il y a des interactions qui peuvent faire varier la distance entre l'étoile et la planète. Également, des interactions entre les planètes entre elles, des interactions gravitationnelles, les planètes s'attirent les unes les autres. Également, des interactions directement entre l'étoile et la planète, des effets de marée. Et puis, il peut y avoir également une autre étoile dans le système. Si c'est une étoile double avec des planètes qui tournent autour d'une des deux étoiles, il peut y avoir des interactions avec cette deuxième étoile qui fait évoluer également les orbites des planètes.
C'est donc un événement rare, mais qu'on suppose depuis longtemps à cause de la proximité des Jupiter chauds avec leur étoile. Les scientifiques estiment qu'il n'y a que quelques-uns de ces suicides planétaires par an dans la galaxie, et c'est la troisième suspicion du genre. Avec la poursuite des observations, on devrait donc en voir d'autres, ce qui permettra d'affiner notre compréhension de la mort de ces exoplanètes.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lozen, Lou Anger, Ali Ruyer-Thompson, Loïc Dutoit. À la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Clara Galivelle. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.